France Inter.
Journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les dons résistent à l'inflation, c'est la bonne nouvelle du jour. Les Français sont toujours aussi nombreux à donner aux associations, malgré la baisse du pouvoir d'achat. Vous allez découvrir dans ce journal comment cet argent est utilisé concrètement. 2 millions de bouteilles de Perrier à la poubelle. L'un des captages dans le Gard est contaminé. Nouveau revers pour le groupe Nestlé et ses eaux minérales. Le détail à suivre. Dans ce journal aussi, un rappeur iranien condamné à mort pour son opposition au régime, les CRS qui menacent de perturber les JO si les primes ne tombent pas, et puis lui n'était pas encore né que Rafael Nadal avait déjà remporté 3 Roland-Garros, un Américain de 16 ans affronte aujourd'hui la star espagnole du tennis.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui l'ancien eurodéputé José Bové et l'acteur Bully Lanners pour le film Une affaire de principe en salle le 1er mai.
France Inter.
La déclaration de revenus, c'est en ce moment, Alexis. Et c'est l'occasion aussi de faire le bilan de ces dons aux associations.
Oui, pour bénéficier d'une défiscalisation partielle. Alors, on aurait pu penser qu'avec l'inflation, les donateurs seraient moins nombreux. Eh bien, pas du tout. En 2023, les Français ont été au rendez-vous. Sarah Mansoura, selon le baromètre que publie ce matin la Fondation des apprentis d'Auteuil, 51% des personnes interrogées ont donné au moins une fois dans l'année.
C'est une hausse de 1 point par rapport à l'année précédente. Et c'est encore plus vrai pour les moins de 35 ans qui ont été 56% à donner. Le record se situe chez les très hauts revenus, plus de 120 000 euros annuels. Eux déclarent à 81% avoir fait au moins un don. Quant au moyen montant des dons, tout revenu confondu, il est aussi en hausse pour atteindre 371 euros par donateur. Mais la grande nouveauté, c'est la hiérarchie des causes soutenues. La santé et la recherche médicale chutent de la tête du classement pour laisser place à l'aide aux plus démunis. 87% des interrogés se disent inquiets sur l'avenir des plus précaires. Enfin, l'envie de s'engager s'annonce un peu plus forte en 2024. La proportion de Français considérant qu'ils vont donner plus augmente de 6 points pour atteindre 28% des donateurs.
Donc de nouvelles priorités pour ces donateurs, vous le disiez Sarah, les plus démunis, mais aussi d'autres causes comme la jeunesse et l'éducation. Alors à quoi servent concrètement les dons dans ce domaine? Pour le savoir, Sarah, vous vous êtes rendue dans un lycée professionnel de Sannois, c'est dans le Val d'Oise.
À 18 ans, Ilan s'apprête à passer son bac pro marchandisage visuel. Un long chemin parcouru pour ce jeune arrivé en classe de 5e avec des difficultés scolaires et de comportement.
J'étais un peu dissipé.
Aîné d'une fratrie de 6, élevé par une mère seule avec peu de ressources, sa place son internat a été largement financé par des dons.
Une fois en fait que je suis arrivé ici, tout ça est parti parce qu'en plus avec l'aide des éducateurs dans les internats et même les profs qui nous suivent, donc ça m'a beaucoup aidé. Si on veut leur parler, ils sont toujours disponibles. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce changement aussi et que j'ai pu réfléchir aussi sur moi-même.
Une partie des 150 internes ici arrivent en situation de décrochage scolaire ou avec un fort besoin de s'éloigner du cadre familial. Ils trouvent dans cet établissement un accompagnement personnalisé, une aide pour trouver des stages et des activités culturelles et sportives. Un encadrement impossible sans les dons récoltés par la Fondation des apprentis d'Auteuil, rappelle la directrice Dominique Lelon-André.
Sans les dons et legs, nous ne pourrions pas avoir des internats où les élèves puissent savoir c'est la qualité d'encadrement qu'on leur offre. Les familles ne peuvent pas payer, ce serait beaucoup trop cher. Donc on va rechercher des fonds, dons, legs, et ils représentent à peu près 70%.
Les parents les plus modestes participent à hauteur de 10% du coût de la scolarité en internat.
Sarah Mansoura.
Il est 7h34 et on en vient à ce nouveau coup dur pour Nestlé.
Et sa branche eau minérale déjà dans la tourmente. La marque Perrier a dû cesser l'exploitation de l'un de ses captages dans le Gard à la demande de la préfecture. Après la découverte de bactéries, on vous en parlait dès hier sur Inter, et ce matin, Marie Dupin, on apprend qu'au moins 2 millions de bouteilles sont concernées.
Oui, 2 millions de bouteilles détruites et un puits désormais fermé dans l'usine Perrier du Gard. Cette annonce d'une contamination par des bactéries d'origine fécale intervient 3 semaines seulement après nos révélations sur une note adressée au gouvernement évoquant un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des eaux minérales Nestlé. En cause, une contamination des ressources qui avait conduit l'entreprise à mettre en place des traitements interdits. La multinationale affirmait avoir retiré ces traitements, mais pouvoir malgré tout garantir la qualité de ces eaux, les puits contaminés ayant été fermés ou détournés pour fabriquer des boissons gazeuses. Or, l'annonce de la destruction de 2 millions de bouteilles Perrier semble confirmer au contraire que des sources contaminées continuent d'être exploitées par Nestlé pour produire de l'eau minérale naturelle, censée pourtant être protégée de toute forme de pollution. Le ministère de la Santé n'a pas encore répondu à nos questions.
Et le groupe assure que les autres bouteilles sur le marché peuvent être consommées sans risque. L'Élysée s'en défend, mais pour les adversaires du président, il s'agit bien là d'une entrée en campagne à 6 semaines des élections européennes. Emmanuel Macron prononce ce matin un nouveau discours sur l'Europe à la Sorbonne, comme en 2017. Le chef de l'État devrait dérouler une série de mesures nécessaires, selon lui, pour passer à l'Europe puissance. Et cela au moment où son camp est à la peine dans les sondages, analyse dans le journal de 8h. Et ses opposants comptent bien réagir. Jordan Bardella du RN organise d'ailleurs une conférence de presse dans la foulée du discours présidentiel. À gauche, Raphaël Glucksmann lui a anticipé dès hier soir, comme pour lui couper l'herbe sous le pied. Le candidat socialiste était à Strasbourg, Laurence Perron.
Plus de bruit encore !
Nombre d'entre eux n'ont pas leur carte PS. Pour beaucoup des étudiants venus écouter l'homme, c'est son slogan, qui veut réveiller l'Europe.
Quel accueil !
L'eurodéputé attaque.
Aujourd'hui, nous avons voté la directive sur les travailleurs des plateformes. Et je dois dire que ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron.
C'est l'intellectuel qui déroule ensuite.
Wo aber Gefahr ist, wächst das rettende Haar. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve.
Il défend après la démocratie européenne menacée une révolution écologique qui ne pèserait pas sur les pauvres.
Que les multimillionnaires contribuent à une transition écologique qui soit socialement juste.
L'écoute est polie, mais à l'issue de 2 heures de meeting, la salle fatigue.
J'avais écrit à peu près une 50aine de pages parce que j'avais décidé que c'était mon grand discours fleuve. Je vais vous épargner.
Toutefois, le feu de clôture sur le président de la République qui aurait renié ses valeurs ranime les ardeurs militantes.
La différence essentielle entre lui et nous. Quand nous rencontrons une situation de déficit, ce n'est pas d'aller taper sur les droits des chômeurs. Ça change tout.
Au final, plus qu'un contre-discours de la Sorbonne, une profession de foi européenne et social-démocrate très documentée.
Ramenez-les à la maison. Nouvelle manifestation spontanée hier soir en Israël, devant le domicile du Premier ministre Netanyahou, après la diffusion d'une nouvelle vidéo d'otage par le Hamas. Il s'agit d'un homme de 23 ans, enlevé lors du festival de musique Nova le 7 octobre dernier. À Gaza, pendant ce temps, toujours beaucoup de questions autour de ces fosses communes découvertes dans 2 hôpitaux de l'enclave. La Maison-Blanche demande ce matin à Israël une enquête fouillée et transparente. En Iran, il est l'une des grandes voix de la révolte contre les mollahs. Le célèbre rappeur Toumadj Salehi vient d'être condamné à mort par un tribunal d'Ispahan. Étienne Monin, le régime veut faire disparaître avec lui un symbole très visible de la résistance.
Malgré les risques encourus dans ce titre qui date d'avant la révolution de 2022, Toumadj Salehi critique ouvertement le régime et l'absence de justice. À 33 ans, cette star du rap en Iran est incarcérée 3 fois, arrêtée en décembre dernier pour avoir dénoncé l'usage de la torture en détention dans une vidéo.
J'ai été torturé. Après cette arrestation, ils m'ont cassé la main et frappé le visage. J'ai essayé de me protéger avec les mains, ils m'ont brisé les doigts.
Issu d'une famille de résistants, le rappeur aux 2 millions de followers sur Instagram est un combattant. Il défend les valeurs de liberté et refuse de se taire, explique Lila Pagzar, activiste de la diaspora en France.
C'est vraiment le symbole de la résistance. Il va donner aux Iraniens de l'intérieur la possibilité de croire qu'ils peuvent résister, que la liberté peut arriver.
Toumadj Salehi a soutenu la révolution de 2022. Ça n'est pas le premier artiste condamné à mort. Les militants pensent qu'avec lui, c'est l'espoir que le régime veut faire disparaître.
C'est une situation un peu paradoxale que connaissent aujourd'hui les aéroports français. Le principal syndicat de contrôleurs aériens a bien levé son préavis de grève hier, mais trop tardivement pour pouvoir reprogrammer les vols déjà annulés. Le trafic reste donc très perturbé toute la journée. Orly, le plus touché, avec 3/4 de suppression, 65% à Marseille, la moitié à Roissy. Les conflits sociaux surveillés comme le lait sur le feu à l'approche des JO. Les policiers vont-ils entrer dans la danse? Le ministre de l'Intérieur leur a pourtant promis des centaines de millions d'euros de primes pour ces jeux. Mais l'argent n'est pour l'instant pas débloqué par Bercy. Le syndicat Alliance Voix Rouge émène aujourd'hui une première action symbolique en appelant ses troupes à bloquer le passage de la flamme CRS. C'est un défi sportif interne. Premier avertissement doucement donc, avant de frapper peut-être plus fort. Fabien Van Emmerik, secrétaire général.
Il y a l'arrivée de la flamme des CRS. On va montrer à notre administration qui sera présente, de la plus petite à la plus haute autorité, mais aussi à l'ensemble du gouvernement, qu'on est capable de bloquer une arrivée de flamme. On va leur dire que le 8 mai, on est capable de faire la même chose avec la vraie flamme. Donc malheureusement, encore une fois, et ça devient usant même, on est obligé de menacer, on est obligé de se mobiliser, on est obligé de faire en sorte d'obtenir ce qu'on nous a promis. Aujourd'hui, vous avez Bercy qui se permet de bloquer la situation financière et vous avez un Premier ministre qui ne fait pas l'arbitrage escompté et on attend toujours. On ne va pas aller envoyer les collègues travailler 6 jours sur 7 à 70 heures par semaine avec des petites primes Jeux Olympiques, des heures supplémentaires qui sont normalement payées et au final, pas débloquer l'argent nécessaire.
Le secrétaire général d'Alliance Police avec Emmanuel Leclerc. Le sport sur le terrain et cette surprise ce matin. Xavi, l'entraîneur du Barça, restera finalement à son poste jusqu'en 2025 au moins. Il a subitement changé d'avis, lui qui disait jusque-là vouloir quitter le FC Barcelone après une série de mauvais résultats. Aux rayons sportifs espagnols, je demande aussi Rafael Nadal, dont on ne sait toujours pas s'il participera à Roland-Garros fin mai. Le tennisman n'a pas retrouvé toute sa forme, il hésite encore. En attendant, il joue aujourd'hui le premier tour du tournoi de Madrid face à un jeune, très jeune adversaire, Darwin Blanche, 16 ans seulement, grand espoir du tennis américain. Fabrice Abgral, on ne voit pas souvent de telles confrontations.
21 ans de différence. Jamais dans l'histoire du tennis, il y a eu autant d'écart d'âge entre deux adversaires. Darwin Blanche est né en Floride le 28 septembre 2007. À cette date, Rafael Nadal était déjà numéro 2 mondial et avait remporté 23 tournois, dont 3 Roland-Garros. Darwin Blanche est plutôt précoce. Ce gaucher américain devient en effet champion des États-Unis des moins de 16 ans, alors qu'il n'en a que 14. Il quitte la Floride pour Alicante, en Espagne, où il intègre l'académie créée par Juan Carlos Ferrero, le coach de Carlos Alcaraz, avec lequel il s'entraîne régulièrement.
Tous les entraînements avec Carlos m'aident vraiment, il me donne des conseils. Chaque fois que je m'entraîne avec lui, c'est un grand plaisir et j'en tire le meilleur.
Carlos Alcaraz est donc son partenaire d'entraînement, mais Darwin Blanche a une idole, c'est Novak Djokovic. En revanche, son modèle, c'est Rafael Nadal.
Quand j'étais plus jeune, j'imitais son coup droit lasso, je le copiais vraiment, mais aussi son esprit guerrier. Tout le monde disait, c'est Nadal.
Alors forcément, affronter Rafael Nadal, c'est pour lui.
C'est un grand rêve, surtout par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce sport. C'est génial.
Le tennis n'est pas le seul domaine dans lequel il est doué. Darwin Blanche parle 4 langues, l'anglais, l'espagnol, le chinois et le thaï, et tout ça à 16 ans.
Et puis on vient de l'apprendre, Nicolas, à Paris, les ailes du Moulin Rouge dans le quartier de Pigalle se sont effondrées dans la nuit, heureusement sans faire de blessés. Un périmètre de sécurité est mis en place autour du mythique cabaret, amputé donc ce matin de ses ailes lumineuses.
Merci Alexis Morel. À suivre, Yaël Gauze, Dominique Seux, Sonia De Villers, mais pas Mathieu Noël de nouveau à Faune, ce qui est compliqué tout de même pour faire de la radio.